Ça reprend, c'est le moment.
Bah, quel moment?
Celui de la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Je ne suis plus une inconnue pour vous, il est temps de passer aux petites et grandes confidences. Je me suis rendu compte ce matin que je passais ma vie à ne jamais finir mes cafés. Je les pose quelque part, je les oublie, je les laisse tiédir. Est-ce que vous faites comme moi? On les réchauffe et on les oublie encore. Eh bien la vie c'est un peu pareil parfois, on remet à plus tard. On se dit j'irai voir cet ami demain, je prendrai du temps pour moi après. Je soufflerai quand j'aurai le temps. Sauf que parfois la vie décide pour nous. Un jour, un matin, comme les autres, on est là à courir après un train, à penser au boulot et boum. Un mot qui fiche tout, qui fait flancher les horaires, les cafés tièdes et les projets repoussés. Le cancer, ce mot-là il claque, il arrête le film. Alors qu'est-ce qu'on fait quand le film s'arrête? On attend le noir total ou on trouve un moyen de rallumer un peu la lumière. C'est là qu'ils arrivent, eux, parenthèse 53, avec leur bout de lumière, leur souffle d'air, leur petit rituel pour rappeler que derrière la maladie, il y a la vie, la vraie, celle qui respire, qui s'accroche. Notre invité d'aujourd'hui, justement, ouvre cette parenthèse. Il s'agit de Karine Lepécheux. Bonjour Karine et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci à vous de me recevoir.
Alors on va parler de l'association, de ce que vous faites, un peu comme des allumeurs de réverbères et d'une pièce de théâtre qui se jouera le 14 mars à Sougé-sur-Ouette au bénéfice justement de votre association. Ensuite, le micro sera à vous deux, Maxime et Ronan, aujourd'hui, puisqu'on vous retrouve pour la revue de presse du Haut-Anjou. Mais déjà, avant toute chose, comment est-ce que vous allez?
Bonjour Margot, bonjour à tous, ça va très bien, merci.
Bonjour à tous, ça va super, et toi Margot?
Eh bien très bien, puisque pour commencer la semaine, on prend un bol d'air ensemble, direction la campagne du Nord Mayenne, plus précisément à Tubœuf, parce que oui, on parle souvent du monde agricole, des paysans, des exploitations, mais parle-t-on assez de ce que ça représente de s'installer, des doutes, des obstacles, des mille et une questions qui traversent ceux qui rêvent de se lancer? Cette semaine, notre série de reportages vous emmène au cœur de ces questionnements, donc le 21 février dernier, nous étions au départ du parcours immersif Alterfix, un programme conçu pour aider les futurs agriculteurs à mûrir leur projet d'installation en agriculture paysanne. Un parcours qui repose sur la force du groupe, le partage d'expériences et la découverte des différents territoires mayennais. On termine ce lundi aussi avec le journal des sports avec toi Mathieu qui complète l'équipe du jour. Comment est-ce que tu vas?
Eh bien écoute, je vais super bien et toi?
Ça va très très bien. Et je n'oublie pas de vous saluer, vous amis auditeuristes, bienvenue. Je suis Margot, je suis heureuse de vous retrouver et de passer ce moment avec vous. C'est votre émission quotidienne L'Agité du Local qui commence. Et je vous le disais, notre invitée d'aujourd'hui est Karine Lepécheux. Vous êtes trésorière au sein de l'association Parenthèse 53. Et alors pour commencer, j'avais envie de vous demander peut-être comment est-ce qu'est née l'association et quelles sont les missions, l'ambition qu'elle a sur le territoire?
Alors, Parenthèse 53 a été créée en 2015, cela fait 10 ans désormais, par des soignants de la polyclinique du Maine, qui travaillaient tous dans le service de chimiothérapie ou étaient du moins proches de ce service. Ensuite, l'association a d'emblée mis en place des ateliers mieux-être pour que les Mayennais qui traversent une période de cancer apprennent à prendre soin d'eux par le biais d'ateliers mieux-être.
On parle souvent justement du combat contre la maladie, mais peut-être pas assez de la fatigue, de la solitude, de la perte de repères. En quoi votre association est-elle une réponse justement à tout ça, à cette solitude précisément?
Eh bien, même si les patients sont en cours de traitement, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie ou thérapie orale, ils peuvent avoir des moments pour se divertir. Nous mettons en place 7 ateliers différents qui permettent qu'ils passent des temps avec d'autres personnes pour échanger ensemble. Parmi les 7 ateliers que nous proposons, il y a du sport adapté parce que même si je suis en soins, je peux quand même faire du sport de façon adaptée. Il y a des moments de socio-esthétique qui permettent à une socio-esthéticienne de donner des conseils de beauté aux personnes. Ça peut être également sur l'entretien de ma peau qui peut parfois être beaucoup plus sèche. Nous avons également des séances de Qigong et de yoga qui permettent aussi de mettre en mouvement ce corps tout en respectant mes limites, bien sûr. Il y a un atelier images qui donne des thèmes pour prendre soin également de quelle image je donne aux autres, aux membres de ma famille. Ça permet de me sentir mieux dans ma peau et d'avoir une meilleure confiance en moi. Il y a un atelier de socio-coiffure qui permet également de prendre soin de mes cheveux ou bien sûr d'accessoiriser si j'ai subi la perte de mes cheveux. Il y a également des séances de sophrologie pour apprendre à mieux gérer le stress, à améliorer ma fatigue, mon sommeil. Et puis, parenthèse 53, c'est aussi une offre d'un coup 5 heures à toute femme opérée d'un cancer du sein en Mayenne. pour d'emblée montrer que nous sommes présents pour les accompagner tout au long de ce parcours.
J'imagine que c'est aussi l'occasion pour des personnes qui vivent un parcours certes différent, j'imagine que chaque parcours est particulièrement singulier, mais de se rencontrer et d'échanger sur des problématiques communes.
Tout à fait, il y a beaucoup d'échanges en dehors de ces moments d'atelier. Les personnes viennent ensemble, d'ailleurs s'envoient des SMS d'encouragement pour venir aux différentes séances, mais aussi par rapport au traitement, elles se tiennent informées. Et puis, ça permet aux adhérents de rencontrer des personnes en début de traitement, également en fin de traitement, ou ceux qui ont terminé déjà depuis 6 mois. C'est un réel encouragement les uns envers les autres. Ils se comprennent mieux quand ils discutent entre eux, bien sûr.
Alors, vous êtes trésorière de l'association, je l'ai dit, mais j'imagine que votre rôle dépasse justement les chiffres. Qu'est-ce que cet engagement vous a appris, vous, sur les autres, sur la maladie, peut-être aussi sur vous-même, Karine ?
Eh bien, du coup, le côté bénévolat est très important. Je suis moi-même infirmière dans le service de chimiothérapie de la Mayenne, donc il y a un seul centre en Mayenne. Il me paraissait important de nous mobiliser pour cette association. Ça me permet également de rencontrer d'autres personnes. Bien sûr, nous sommes des bénévoles et bien sûr, au-delà, depuis 10 ans, il y a d'autres soignants, mais aussi des personnes extérieures qui nous rejoignent. Et ça nous permet d'avancer au cours... Bien sûr, tout pendant ce parcours, ça nous permet de mettre à cœur ce côté bénévolat désintéressé, très important.
J'imagine que ce qui donne aussi particulièrement du sens à toutes ces actions que vous mettez en place, à tout cet accompagnement, c'est les retours aussi des personnes qui bénéficient de l'association et de ce que vous proposez.
Bien sûr, oui. La plupart de nos adhérents, ils sont au nombre de 80 chaque année environ, sont très, très reconnaissants de ce que l'on peut leur apporter. C'est ce qui nous mène du coup à nous dépasser, à être très, très présents auprès d'eux. Nous demandons une adhésion uniquement de 10 euros par an, qui est très minime pour être accessible à tous. Ça aussi, c'est une valeur importante de l'association. Et nous, en termes de bénévoles, nous devons bien sûr aller chercher des fonds parce que toutes les prestataires des 7 ateliers sont rémunérés et donc nous avons besoin de nous faire connaître pour recueillir des dons qui nous permettent d'avancer.
Et donc c'est peut-être le moment de parler de cette date du 14 mars puisqu'une pièce sera jouée justement au profit de l'association. Donc ça c'est une idée aussi justement pour récolter des dons et faire vivre l'association que vous avez
mis en place. Tout à fait, diverses associations, diverses particuliers nous font des dons et des belles œuvres comme celle-là. Donc c'est Louette en scène qui nous a connus auparavant et qui avait à cœur de faire une représentation dédiée à Parenthèse 53. Donc c'est une très très belle action caritative de leur part et qui permet de nous faire connaître sur la région de Sougé-sur-Ouette. D'autres associations également nous ont accompagnés au niveau sportif, notamment je pense à mon club de cœur qui est l'AS Andouillé. Je fais également partie de ce club qui chaque année font un match qui est reversé pour Parenthèse. Il y a l'US Saint-Berthevin, mais je pourrais en citer plein. Il y a Jean Dipalais, Améral. Vous voyez, ça rayonne sur toute la Mayenne. Différentes manifestations qui nous sont dédiées, qui sont très importantes.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de cette pièce ? Le titre de la pièce, c'est Sexe et jalousie. Et donc, elle a été écrite par Marc Camoletti.
Tout à fait. Donc, c'est une histoire un petit peu rocambolesque entre deux couples où vont se mêler, bien sûr, ces deux thèmes du sexe et de la jalousie, à savoir qui mène le plus le monde. Ça promet des moments hilarants, drôles. Ça permet de se détendre. Je vous invite à venir le découvrir.
Alors, on ne se sent jamais concerné tant que la maladie ne frappe pas à notre porte personnellement. Souvent, ça nous semble très, très loin. Pourtant, la solidarité est essentielle. On vient de le rappeler. Si vous deviez adresser un message à nos auditeurs, justement, pour continuer à se sensibiliser et tout particulièrement aussi à donner, à s'impliquer auprès d'associations comme les vôtres. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ?
Alors, bien sûr, nous avons besoin, nous sommes à la recherche de bénévoles. C'est très important pour pouvoir continuer à mener à bien et à rayonner sur le territoire de la Mayenne. Venez découvrir cette pièce de théâtre parce que ça permet de passer un bon moment tout en soutenant une belle association pour une cause qui est très noble. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, à partager, à en parler autour de vous.
Quel rêve, peut-être quelle ambition devrait-on avoir pour améliorer l'accompagnement des patients atteints de cancer ? Quelle serait votre première action si on devait encore aller plus loin sur ce qui existe déjà aujourd'hui ?
Si on devait encore aller plus loin, ce serait de réussir à associer les proches. Il n'y a pas que les patients, mais l'entourage est très, très important également. Donc si on pouvait mettre en place des choses également pour l'entourage, ce serait excessivement bénéfique, bien sûr, pour les aidants.
Oui, c'est vrai que les aidants, on en parle très très peu. Oui. On se rend très peu compte tant qu'on n'est pas confronté à la maladie, de ce que ça représente au moment du diagnostic. Il y a différentes étapes au cours de la maladie. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, peut-être pour sensibiliser l'auditeur qui se sent loin de tout ça ou qui aurait un proche qui viendrait peut-être d'être diagnostiqué, de se dire, bah, tiens, voilà par quoi est-ce qu'il va passer. Il y a différentes étapes, j'imagine.
Bien sûr, il y a toute une équipe soignante autour du patient, mais toutes les associations sont très importantes et on le dit souvent qu'il faut apprendre à danser sous la pluie, que ce soit pour les patients, mais aussi pour les proches et ne pas hésiter à en parler. La parole est libre et à ne pas hésiter à solliciter diverses associations. Il n'y a pas que Parenthèse 53 sur le territoire de la Mayenne, il y en a bien d'autres, telles que la Ligue contre le cancer, les Roses de Mai, les Agathe Roses également.
Ces temps-là sont importants dans l'année pour sensibiliser et rappeler les gens aussi de se faire dépister. Le dépistage est essentiel.
Oui, tout à fait. On a différents temps comme celui-ci sur la Polyclinique du Maine. On a Mars Bleu qui approche. Il y aura une journée dédiée le 25 mars. Mais on a aussi tous les ans Octobre Rose, où il y aura également une journée qui sera dédiée dans le hall d'accueil de la Polyclinique.
Est-ce qu'on sent aujourd'hui que les gens sont plus sensibles justement au dépistage? Là, on parle de Mars Bleu qui est donc le mois de sensibilisation pour le cancer colorectal. On sait qu'il y a des cancers où malheureusement le dépistage est trop, n'est pas fait ou est trop tardif, et c'est important de rappeler aux gens, mais allez faire ces différents dépistages.
Oui, exactement, il faut surtout respecter les convocations qui arrivent par le biais des courriers de la CPAM, et puis ne pas hésiter à avoir un lien très proche avec le médecin traitant.
Si on devait dire un dernier mot avant de se quitter, Karine, on voit heureusement beaucoup d'élan de solidarité qui nous touche par diverses associations, divers événements destinés à sensibiliser les gens. Qu'est-ce qui vous fait dire peut-être que cette chaîne humaine autour de Parenthèse 53 particulièrement précieuse sur le territoire?
Eh bien, du coup, ça nous permet de rayonner sur le territoire, d'apporter tous ces moments mieux-être. C'est très, très important de continuer nos actions. Hein. Nous sommes fiers de nos 7 ateliers en place. Nous avons beaucoup de sollicitations pour avoir d'autres actions à venir. Mais pour l'instant, financièrement, nous en tenons à nos 7 ateliers. Donc, c'est important de continuer à nous soutenir de façon à pérenniser nos actions.
Et alors, pour vous soutenir, il y a donc un site internet et l'OASSO.
Exactement, il y a le site internet, on a des réseaux Facebook et Insta. Et bien sûr, nous pouvons faire un don sur HelloAsso, réserver des places pour le théâtre également via HelloAsso.
Et donc, je le rappelle, la date de cette représentation, ce sera donc le 14 mars. Le nom de la pièce, c'est Sexe et jalousie. Donc, un texte de Marc Camoletti. Merci beaucoup, Karine, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Un grand merci à vous.
Alors, on continue l'émission dans quelques petites minutes. Mais avant, Maxime, on fait une pause et en musique.
Et oui, on va voyager dans l'espace sonore avec la musique Tout l'univers de John Steer.
Et c'est le vent qui frôle sa main sur mon épaule, le fil de temps à ma tête, pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruines, le moment de grandir, ne pas te retenir. Je
C'est l'heure de la revue de presse du Haut-Anjou. On la commence avec l'installation effective à l'hôpital de Château-Comté de Marianne Martin qui exerce en tant que gynécologue médicale.
En effet, Maxime, notre hebdomadaire local est allé à la rencontre de Mariana Martins qui a quitté le Brésil avec sa famille en 2022 pour venir s'installer en France et plus précisément à Château-Gontier. Elle avoue ne pas regretter ce choix, néanmoins difficile. Désormais, elle exerce depuis août 2023 à l'hôpital de Château-Gontier en tant que gynécologue médicale, mais initialement elle était au Brésil gynécologue obstétricienne. Elle a choisi de s'orienter dorénavant vers la gynécologie médicale car les besoins de professionnels dans cette spécialité sont criants au sein de l'hôpital de Château-Gontier. Néanmoins, la praticienne exerce également le lundi au pôle santé de Segré et en parallèle, elle passe aussi une journée par semaine à la maternité de niveau 3 de Château-Gontier et de niveau 1 à Angers. Elle prépare en ce moment un diplôme interuniversitaire sur la colposcopie et souhaite à terme s'installer en ville avec son propre cabinet après qu'une commission ait validé sa seniorisation.
Et ensuite, on parle plutôt de sport connecté.
Oui Maxime, le Haut-Anjou a été à la rencontre de Pierrick Mosca-Tello, licencié du club nautique de Château-Gontier, qui est vice-champion de France de rameur et désormais depuis peu 4e mondial de la catégorie 60-64 ans du 2000 mètres en poids léger, suite à sa participation au championnat du monde d'aviron en salle connectée. Malgré qu'il termine à seulement 1 seconde et 4 dixièmes du podium, c'est une belle performance pour Pierrick qui a fait honneur à son rang national avec un temps stratosphérique de 7 minutes et 7 dixièmes et on l'en félicite. La saison indoor est désormais terminée, place aux courses sur l'eau pour Pierrick qui était d'ailleurs engagé ce week-end au championnat de France sur longue distance qui se sont déroulés sur le bassin du Breuil à Mâcon.
Et pour terminer cette revue de presse, où allons-nous maintenant ?
Nous allons à Bazouger pour rencontrer Morgane Chopelin qui a réuni autour d'elle toute une ferme d'animaux qu'elle propose de rencontrer avec son association Les Petits Sabots dans les Gros, sans en tirer de bénéfices évidemment. Le samedi 22 février, sa nouvelle ferme itinérante était présentée gratuitement à Bazouger à environ une centaine de participants qui se sont réjouis de pouvoir rencontrer 3 moutons, 2 chèvres, 6 chevaux, 14 lapins répartis équitablement entre les deux sexes, 2 paons, 5 poules, 2 coqs, 3 canards, 2 vaches et 2 ragondins qui se sont installés sur la berge du petit étang bien malgré elle. Avec cette ferme itinérante, Morgane vise les écoles et les maisons de retraite principalement et veut alors permettre à toutes les générations de vivre ou revivre une proximité avec les animaux qu'elle veut présenter autrement dans un cadre convivial et de partage.
Merci Renan. C'est la fin de cette revue de presse du Haut-Anjou. Pour l'auditeur qui voudrait plus d'informations, je vous rappelle quand même que votre hebdomadaire, le Haut-Anjou, est disponible en kiosque chaque vendredi, ainsi qu'en version numérique sur le haut-anjou.fr.
L'agité du local sur l'autre radio. On part maintenant sur le terrain au cœur d'un week-end où de futurs agriculteurs se rencontrent, échangent et imaginent leur avenir. Première étape, comprendre ce qui les réunit ici et pourquoi ce programme peut tout changer pour eux. Écoutez. Il y a quelque chose de rassurant, presque immuable, dans le paysage agricole. Les haies qui serpentent entre les parcelles, les bâtiments en pierre qui ont vu défiler les générations et ce rythme toujours le même, dicté par les saisons et le soin porté aux animaux. Et pourtant, ce décor familier cache une réalité en pleine mutation qui reprendra ses fermes demain. Comment assurer la transmission d'un savoir-faire tout en répondant aux enjeux d'aujourd'hui ? En Mayenne, le programme Alterfix tente de répondre à ces questions. Il accompagne celles et ceux qui rêvent de s'installer mais qui se heurtent à mille interrogations. Comment trouver une ferme ? Comment financer un projet ? Comment apprendre ce métier si l'on ne vient pas du milieu agricole. Pendant 3 jours, une quinzaine de porteurs de projets ont sillonné les fermes locales, échangé, écouté, projeté leur avenir. Et moi, j'ai été à leur rencontre. Dans ce premier épisode, on va plonger au cœur du programme avec Wojtek Murza, chargé de mission Alterfix, et Vincent Jamois, agriculteur bio qui accueille aujourd'hui ses futurs paysans et réfléchit lui aussi à la suite. Une histoire de transmission, d'engagement et de nouvelles racines à planter. Et on écoute tout de suite Wojtek Murza, chargé de mission Alterfix pour la coopérative d'installation en agriculture paysanne de la Mayenne.
On vient visiter des fermes qui sont à transmettre pour que les porteurs de projets puissent s'imaginer en tant que futurs repreneurs. Derrière, après les visites, on travaille tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu étudier, demander comme renseignement. On travaille en atelier de transmission animé par une association qui est professionnelle, qui est spécialisée dans ce sujet-là, agricole et transmission.
Programme Alterfix, qu'est-ce que c'est ?
Programme Alterfix, c'est un parcours qu'on propose aux porteurs de projets en Mayenne. Donc c'est assez nouveau, innovant, puisqu'on se rencontre pendant le week-end, du vendredi matin au dimanche soir, donc sur un temps plus long, intensif, en proposant différentes activités de découverte du monde paysan, agricole, des visites de fermes, des ateliers. On rencontre des acteurs responsables de l'installation ou de la vie paysanne sur un territoire. Donc il y a plein d'activités qu'on propose. À la fin de ce parcours, il y aura un moment important, c'est un camp de 2 semaines dans les Coëvrons, où on va aller encore plus en profondeur à différents sujets, de visites, d'études, de scénarios.
Tous les participants à cette visite, ce sont des porteurs de projets.
Oui, exact. Là, cette fois-ci, on s'est réunis à Grazé pour la deuxième fois en Mayenne. Et là, on a réuni 17 porteurs et porteuses de projets d'agriculture, surtout paysanne.
C'est des temps qui sont organisés plusieurs fois dans l'année.
Plusieurs fois dans l'année. On a prévu 4 moments. En septembre, on s'était réunis sur une ferme à Montflour, d'Eradienko. Donc c'était septembre, là en février à Grazé. Au mois de mai, il y aura un week-end à Cran. En juillet, il y aura un camp de 2 semaines dans les Coëvrons. Donc chaque fois sur un territoire différent de la Mayenne.
On écoute maintenant Vincent Jamois, éleveur en vache laitière bio à Tubeuf en Mayenne, qui accueille les porteurs de projets sur sa ferme pour une visite. Pourquoi c'était important pour vous de pouvoir présenter un peu votre parcours ?
Le parcours, il y a d'abord le parcours de vie, et puis ensuite il y a le parcours professionnel en fait. Il faut se prémunir de certaines choses et en même temps être averti, puis voir l'évolution des choses par la suite, comment on voit les choses. Sur ma ferme, c'est possible.
Ce qui a été intéressant dans ce que vous avez pu raconter, c'est que vous avez changé de système, vous êtes passé au bio justement, vous venez de le dire, en 2020. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de changer ?
Alors il fallait changer parce que pour moi, le système des années 70-80, il est au bout du bout. J'ai trouvé un système moi, qui m'intéressait. Dans la pâture. Donc pour moi, c'est plus un système d'avenir, efficace et efficient.
Peut-être quelle est la particularité de votre ferme à vous, selon l'endroit où vous vous trouvez dans le département ?
Évidemment, à Tubeuf, tu peux pâturer. Évidemment, là où je ne suis pas très loin de la Manche, oui, je peux pâturer. Je peux arriver largement à ce que je souhaiterais. Il y a toujours un système de fuite en avant de quelque chose, donc il faut aller vers quelque chose de plus efficient.
Le changement climatique, comment est-ce que vous le ressentez et comment est-ce qu'il faut se préparer peut-être pour l'avenir quand on est agriculteur aujourd'hui ?
Le réchauffement climatique, en fait, il y a deux choses. Il y a réchauffement et puis climatique, il y a le bouleversement climatique et puis le réchauffement en soi. Le bouleversement, c'est bien des montées et des descentes plus hautes et plus basses, plus de chaleur, plus de froid, plus de pluie, moins de pluie. Mais il y a aussi une augmentation de la chaleur un peu. On voit bien les degrés en plus. Et ben, c'est ça aussi qui va nous faire accepter d'avoir plus tôt ou un peu plus tard et ainsi de suite, quoi. Ici, je ne peux pas avoir peur du réchauffement climatique. Pour moi, ici, je ne peux pas manquer d'eau. Je peux avoir chaud comme les autres, mais un peu moins chaud qu'ailleurs. Il faut se prémunir contre les aléas, les montées et les descentes en fait, du temps et en être conscient, pas en être surpris.
La question de la transmission aujourd'hui est assez centrale et parfois pas forcément évidente. Vous qui aujourd'hui cherchez à transmettre, est-ce que vous craignez que ce soit compliqué ou au contraire vous pensez que ça va bien se passer ?
Je sais que c'est pas si simple que ça. Je sais aussi que ça peut mettre du temps. C'est pour ça que je prends bien avance. Je sais par contre que en s'y prenant d'avance, eh bien, on peut se trouver bousculé dans un sens et bousculé dans l'autre. On verra bien. C'est aux jeunes de voir ce qu'il veut, lui.
Pour terminer, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune qui aurait envie de se lancer dans ce métier-là ?
Sois toujours perspicace. Sois toujours éveillé à ce que tu as autour de toi. Va chercher à l'information. N'attends pas qu'on te l'amène. En réfléchissant à plusieurs, des fois, il y a quand même bien des idées que nous n'avons pas réfléchies, hein, tout simplement, et qu'un autre t'ouvre l'esprit sur une petite particularité qui te permet d'avancer sur ton système à toi.
Transmettre une ferme, s'installer, trouver sa place, Alterfix accompagne ses trajectoires entre héritage et renouveau. Vincent Jamois ouvre ses portes à une nouvelle génération d'agriculteurs en quête de sens et de repères. Dans le prochain épisode, on suivra Maël et Nathan, deux jeunes porteurs de projets entre attachement familial et envie de réinventer l'agriculture. Comment voient-ils leur avenir ? Quels défis doivent-ils relever ? C'est ce que l'on découvrira dans l'épisode de demain. Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Dans quelques instants, c'est le journal des sports avec Mathieu, mais tout de suite, musique Ronan.
Et oui Margot, je vous propose une adaptation mélodique par Thibaut Covin et M du titre pacifiste Imagine de John Lennon.
Thank you.
terminer cet agité du local du jour, faisons un tour de l'actualité sportive en Mayenne avec Mathieu.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
On commence ce journal par la mauvaise nouvelle avec la grosse désillusion du Stade Lavallois.
Et cette désillusion a eu lieu vendredi dernier à Le Basserre, face à l'avant-dernier du championnat, à savoir Martigues. Et devant leur public, les Tangos se sont fait surprendre en fin de partie, en prenant le seul but du match encaissé dans le temps additionnel signé Steve Louis Solvet. A noter que pour ce match d'ailleurs, Laval était de nouveau pénalisé par les absences au milieu de terrain de Samsana et du capitaine Jimmy Roy. D'autant plus surprenant aussi également que Laval restait sur un exploit retentissant sur la pelouse du leader de Ligue 2. Et il y a deux semaines au Moustoir, les Tangos avaient fait tomber Lorient en s'imposant 1-0 grâce à Amine Tcherny. Comme le match d'aller d'ailleurs et une victoire 2-0 remportée à domicile. Une performance car chez lui et Lorient restaient sur 11 matchs sans défaite. La défaite à domicile d'ailleurs face à Martigues et cette victoire à Lorient montrent l'irrégularité de Laval cette saison. En Ligue 2, cette irrégularité pourrait éloigner le club du top 5. Top 5 qui, pour information, offre une place d'accession à la Ligue 1 avec les barrages. Après ce revers, Laval sera de nouveau opposé à un relégable vendredi prochain à 20h. Avec cette fois un déplacement au stade Michel Dornano pour défier la lanterne rouge de Ligue 2, à savoir quand.
Du futsal maintenant, avec la victoire dans la douleur de l'étoile lavalloise face à Toulouse.
Une victoire très attendue Margot, en particulier pour l'étoile lavalloise qui restait sur deux contre-performances en championnat. La première face au Gol FC et un match nul de partout, et la deuxième face au Sporting Paris et une défaite 5-4. Et dans ce choc de tableau pour le titre, Laval a sans doute perdu gros avec la perte du siège de leader. Et dans ce contexte sportif compliqué, Laval devait réagir samedi 22 février, avec un match important face à Toulouse. Et cette réaction a eu lieu, mais non sans mal. À la mi-temps, les Stélites s'étaient menés 3-1, avant heureusement de renverser la vapeur grâce à Sofiane El-Mesrar. Ce dernier d'ailleurs a inscrit un triplé et permet au final à Laval de l'emporter 5-4. D'ailleurs, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat avec, dites-vous bien, 17 réalisations. En attendant le prochain match, Laval avait rendez-vous ce week-end avec les huitièmes de finale de la Coupe de France. À l'extérieur, Laval a fait respecter la hiérarchie avec un net succès 7-1 face au Sporting de Jars pour rejoindre tranquillement les quarts de finale.
Désormais, place au handball avec le CA Évron et l'Union Sud-Mayenne en course pour le maintien.
À défaut d'évoluer dans le même championnat, le CA Évron et l'Union Sud-Mayenne ont cette fois le maintien comme objectif principal, ou plutôt comme objectif comme point commun. Pour le premier, le maintien est l'objectif premier des Évronaises. Ces dernières évoluent actuellement en N2. Dans ce championnat, l'objectif est avant tout celui du maintien. D'ailleurs, c'est ce qu'a martelé le coach des Évronaises, Nathan Contreras. Et ce maintien est pour l'instant réussi, surtout après la victoire des féminines d'Evron face à Pessac 30-25. Actuellement, elles sont 5e du championnat avec un match important face à Marmès. Ce match aura lieu le 15 mars prochain. En Mayenne, une autre équipe de handball lutte aussi pour le maintien. Il s'agit de l'Union Sud-Mayenne, promis cette saison en N1. Et le moins que je puisse dire, c'est que cette lutte sera compliquée jusqu'à la fin. Avec 5 points d'eau sur le dernier, l'Union Sud-Mayenne s'est donné de l'air samedi dernier, avec une victoire 36-34 face au centre de formation de Chartres. Avant ce match, l'équipe restait sur un match nul face à Ivry, 36 partout, et une défaite 26-20 face à Libourne. Comptant actuellement 31 points, l'Union Sud-Mayenne est actuellement 9e à 8 journées de la fin.
Du volleyball avec la SPTT qui confirme encore et encore sa deuxième place derrière Boulogne.
Une deuxième place dont les Pégases ne semblent pas vouloir se détacher, à moins d'un faux pas du leader de N2, à savoir Boulogne. En attendant de prendre la tête du championnat, Laval doit continuer son chemin, c'est-à-dire gagner. C'est chose faite pour la SPTT qui restait sur 2 victoires consécutives face aux 2 plus mauvais élèves du championnat. La première face à Saint-Renan, à domicile samedi 22 février, et la seconde face au SCO d'Angers, à l'extérieur, dimanche dernier. Face à ces deux équipes, Laval confirme sa supériorité avec 2 victoires remportées 3-7-1. Et ce, malgré 2-7 de perdus sur l'ensemble des 2 matchs. Petit point classement maintenant, Laval est deuxième sur la poule de la poule B de N2, à 4 points de retard sur derrière l'invincible Boulogne. D'ailleurs, le match tant attendu face à ce leader aura lieu le samedi 12 avril.
On enchaîne avec le basket et le troisième succès consécutif de l'US Laval en championnat.
Après Touraine et Grande-Cintre, c'est au tour de Rueil de s'incliner face à l'US Laval. Samedi dernier, les Lavallois recevaient à domicile le 8e de N2, à savoir Rueil. Une équipe d'ailleurs que Laval avait battue lors du match aller avec un succès 78-69. Malgré la différence au classement, Laval s'est fait bousculer et chahuter dans ce match, au point même de perdre le premier carton 22-19, avant de hausser le curseur et de reprendre le cours du match en remportant les trois autres cartons. Score final 84-68. Dans cette victoire aussi, comment ne pas évoquer Romain Grégoire ? Ce dernier termine meilleur marqueur de la partie avec, dites-vous bien, 22 points inscrits. Avec ce succès ô combien important pour garder la troisième place, Laval enchaîne aussi un troisième succès consécutif.
On termine ce journal complet par l'agenda sportif et les prochaines dates à noter pour nos auditeurs.
Depuis le mois de septembre, vous en avez l'habitude. On commence par le football, par le Stade Lavallois qui recevra le Paris FC à domicile le samedi 15 mars à 14h, après son match face à Caen qui aura lieu vendredi prochain. En football, toujours l'US Changy recevra Beaucouzé le 15 mars après son match en Vendée. En rugby maintenant, le RC Lavallois affrontera le RC Beaulois le 9 mars prochain à 15h à domicile. En volley, Laval défiera à domicile Saint-Avertin le 16 mars à 15h en N2. Enfin, en basket, Laval jouera à l'Espace Main le 15 mars à 20h face au Pôle Association de Rennes. Sur ces informations, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente semaine à vous.
À très bientôt Mathieu. L'agité du local sur l'autre radio. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Karine d'avoir été avec nous et merci à Mathieu, Ronan et Maxime. Une belle équipe aujourd'hui dans le studio de l'autre radio. Alors on rend l'antenne pour aujourd'hui, mais restez bien à l'écoute de l'autre radio.
Et oui Margot, puisque ce soir vous aurez une grosse soirée musicale. Ronan, on commence par quelle émotion ?
La soirée commence à 19h avec Solénoïde. L'émission nous propose chaque semaine un voyage sonore à base de musique planante, cinématographique et ethnique.
La soirée continue.
La soirée continue à 20h avec la discothèque de Joël qui nous plonge au cœur du film Opéra do Malandro sorti en 1986.
Pour finir la soirée.
On terminera cette soirée avec une émission musicale avec l'Aléatoire à 21h.
Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec Floréal Soto, spécialiste des discriminations, du harcèlement et des violences sexistes. On échangera avec elle à l'occasion de sa venue en Mayenne le 25 mars pour une conférence active destinée à renforcer notre courage social pour mieux agir contre les discriminations. D'ici là, on va user d'images et métaphores. Prenez ce début de semaine comme le premier plan d'un nouveau chapitre. Ajustez la lumière, trouvez le bon rythme et laissez-vous surprendre par le scénario. Et faites-le bien.
Bon bah c'est fini.
Tout de même ça passe vite.